Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre du programme Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, nous vous invitons tous les jours à 11h à plonger dans le portrait biographique et documentaire d'une femme ou d'un homme d'exception. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Grandes figures littéraires, grands penseurs ou grands personnages historiques, bienvenue dans toute une vie.
C'est une pipe. C'est la représentation d'une pipe. Mais vous ne seriez pas fumé dans cette pipe, puisque c'est une pipe qui est peinte. Donc, il a marqué, ceci n'est pas une pipe. Avec la pomme, c'est la même chose. Vous ne pourriez pas mordre dans cette pomme. Donc, c'est l'image de la pomme. Mais il fallait y penser.
Je vois une pipe. Elle est bien faite, quoi. Mais il s'agit de quoi exactement, alors ? Si j'ai pas d'une pipe, c'est quoi alors ?
C'était une blague, je pense.
Magritte, l'empire des images.
C'est bien difficile à dire.
Maïlys Bessery, Charlotte Roux.
C'est une pipe hollandaise.
C'est une...
Oui, c'est une pipe.
Quelque chose comme une pipe, comme... Oui, je crois bien.
Mon cher Magritte, j'aimerais vous poser une question.
C'est très gentil, mais voyez-vous, les questions, il me faut généralement... Et à mon ami Collinet, qui est près de moi, il nous faut généralement 48 heures pour y répondre. Alors, si vous vous contentez de ce que nous pouvons improviser...
Mais je vous en prie, certainement.
Nous sommes à votre disposition.
Jacques Saucher est philosophe et écrivain.
Alors, Magritte, je ne l'ai pas connu malheureusement. J'ai bien connu Paul Delvaux. Mais Magritte et ses copains... Skutner, surtout, délicieux, très drôle. Nouget, très grand poète. Et ces gens s'amusaient ensemble, ils ont fait des photos, beaucoup de photos. Au fond, ce qu'on voit, on prend Magritte, métaphysique. C'est une bande de copains qui s'amusaient bien. Ils rigolaient bien ensemble. Ils faisaient un tas de conneries ensemble. Et en même temps, ce qui est étrange, c'est un petit bourgeois. Donc c'est des gens vraiment qui... c'est très paradoxal. Un côté petit bourgeois, un côté complètement fantasque, un côté anard, un côté gamin. Il est sédentaire. Et pourquoi ne peut-il pas être en même temps profondément révolutionnaire? Pourquoi est-ce qu'on peut être les deux à la fois? C'est très mystérieux. C'est un peu Janus, la double face d'un personnage. Et en même temps, clownesque, qui se met en scène d'une façon un peu dérisoire.
Il fait des canulars. Avec Skutner.
Oui, ah oui, ils font des blagues sans arrêt.
En 1979, Georgette Magritte raconte sa rencontre avec René Magritte, alors âgé de 14 ans et elle de 11 ans.
J'étais dans une foire foraine et évidemment mon mari avait 2-3 ans plus que moi et on faisait des tours en carrousel ou bien avec ses frères on allait au cinéma. Il était encore un gamin pour dire. Hein. Ils étaient trois frères ensemble et... c'était des bons copains, quoi. Mon mari est venu à l'académie à Bruxelles et moi, je suis restée à Charleroi avec mes parents. Et quelques années après la guerre de 14-18, nous sommes venus à Bruxelles et j'ai rencontré mon mari de nouveau dans le jardin botanique où je me promenais, lui aussi. Du coup, qui m'a vu, il a dit « Oh, qu'est-ce que tu fais là ?» Et puis, on ne s'est plus quittés. Tout de suite, on s'est revus. Il a fait son service militaire, puis on s'est mariés en 22. Il était grand admirateur de Picasso. Et puis, il a fait un peu de cubisme. Mais au bout de 2-3 ans, il s'est aperçu que ce n'était pas la voie qu'il devait suivre. Et dès 25, il a commencé à faire montrer ses bilboquets. Et il a commencé le surréalisme alors. Et il a toujours continué la même, dans le même esprit.
Il faut imaginer ce qu'est Bruxelles en 1924-25. C'est une ville de province.
Xavier Cannon est directeur du musée de la photographie de Charleroi.
C'est une ville petite, mais c'est aussi une ville intellectuellement copiant un peu Paris. en tout cas dans le monde francophone. Et eux arrivent à définir une forme de surréalisme, d'ailleurs qu'ils ont rejeté tout un moment. Il a fallu 10 ans pour que les surréalistes de Bruxelles acceptent d'être qualifiés de surréalistes. C'est Breton qui, dans une conférence, parle des camarades surréalistes en 1934. Les camarades surréalistes de Bruxelles. Mais pendant des années, ils ont refusé parce qu'il y avait ce souci de liberté. Ils n'avaient pas du tout envie de réagir au mot d'ordre. Et tout en étant d'accord sur l'essentiel par rapport au surréalisme, ils avaient des méthodes d'approche qui étaient totalement différentes. Et surtout, peut-être une façon, parce que Bruxelles n'était pas Paris précisément, d'échapper à toutes ces tentations de la notoriété, du jeu littéraire, des salons. Il n'y a pas un chef de file dans le surréalisme, même si Nouget apparaît comme le théoricien du surréalisme en Belgique, il n'y a pas cette figure, et Nouget n'a jamais voulu la jouer pleinement, comme chez Breton par exemple, qui est un peu le personnage qui domine par sa carrure intellectuelle, par ses connaissances, par sa prestance. Nouget est aussi un homme de l'ombre. C'est un homme qui n'a eu de cesse d'appeler ses amis à l'anonymat.
Le surréalisme représentait pour moi ce qu'il fallait penser.
René Magritte, en 1953.
En disant que ma peinture est surréaliste, il est entendu qu'elle est soumise à la dictée de la pensée. La pensée devient visible par la peinture soumise à la dictée de la pensée. La peinture est ainsi une description visible, à condition que cette description ne soit pas déformée par un souci d'originalité ou de fantaisie.
François Skuyten, puisqu'on est à Skarbek, il y a la tombe du peintre René Magritte qui est au cimetière de Skarbek. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
Pour moi, j'adore René Magritte. Je trouve que c'est un artiste qui continue à me fasciner, à me sidérer. Ce qui est très très beau, je trouve, c'est qu'il a dessiné tout ce qu'il avait autour de lui. Il a dessiné le lampadaire, il a peint sa femme, il a peint sa cheminée, ses portes, ses fenêtres. Toute une dimension s'est introduite dans cette quotidienneté, dans cette proximité banale. C'est ça qui m'a beaucoup touché. Son rapport avec ses chiens.
Le loulou de Poméranie.
Voilà, qui était une fois noir, une fois blanc. Vous savez ça, il alternait les chiens blancs et les chiens noirs, qu'il appelait toujours loulou. Et donc, on arrive d'ailleurs à dater les photographies de René Magritte par rapport à ses chiens, suivant le fait qu'ils soient noirs ou blancs, et suivant la durée de leur vie.
Yeah, sorry, I confused this. Yeah.
No,
welcome. Welcome at the painter's house. Where are you from?
From Germany.
Germany. Mm-hmm. Yeah, guten Tag.
Guten Tag.
Also, das ist hier das Haus von Magritte.
Yeah.
Er hat hier 24 Jahre gelebt, im Untergeschoss. Wir haben seine Wohnung restauriert mit dem originalen Mobiliar. Das ist für Sie, für das Museum. Mm-hmm. Je vais appeler Monsieur Garrigue tout de suite. Hein?
Moi, je suis André Garrigue, initiateur du musée Magritte.
Le musée, il est dans l'ancienne maison, l'une des maisons de René Magritte.
Oui, l'une des, mais très probablement la plus importante, parce qu'il a vécu la majorité de sa vie, enfin plus de la moitié de sa vie s'est passée dans celle-ci, et il a fait aussi la moitié de sa production artistique ici, entre les années 30 et 54.
Alors, où est-ce qu'on est dans Bruxelles, ici ? On est dans quel quartier ?
Si c'est le quartier de Jette, qui est un district, si on peut dire, de Bruxelles, qui fait partie du nord de la ville. Mais ici, c'était un petit appartement, du fait qu'à ce moment-là, il n'y avait quand même pas énormément de moyens. Magritte, qui était artiste débutant, la pièce, c'est petit bourgeois, hein, même s'ils n'en étaient pas encore devenus, comme à la fin de vie, parce que c'est surtout le goût de Georgette qui pénètre ici.
Quels sont les objets de cette pièce que Magritte a peint plus tard ? Parce qu'il a représenté beaucoup des objets ordinaires. Important.
C'est donc surtout la fenêtre à guillotine qu'il a copiée souvent dans des tableaux. Alors, la double porte, il a peint aussi dans un tableau avec un grand rocher au milieu, mais c'est exactement la même porte que celle-là. Puis l'escalier, il a peint aussi dans un tableau où il a utilisé le balustre là au bout. Il a utilisé comme un élément d'un mot, sirène, il a mis dans ce tableau.
Il y a des partitions de musique.
Oui, il faut savoir que son frère était compositeur dans le style foxtrot, jazz, etc., enfin début jazz, Charleston plutôt, Et Magritte illustrait ses partitions, tout ça pour avoir des petites entrées, en fait. Donc il illustrait des partitions que le frère composait, et ça s'éditait comme ça. Et Georgette, quand même, enfin Magritte pas du tout, mais sa femme jouait un peu du piano, comme bon amateur. Et alors Messens, qui était un membre du groupe sur Alice, c'est une petite bande hein, de 8-10 personnes, était à ses débuts aussi compositeur, ami de Satie d'ailleurs.
On voit un petit téléphone d'époque, noir.
Oui, le téléphone qu'il a eu à la fin de sa vie, les dernières années.
Alors là, c'était la première pièce, il y en a une juste après,
oui,
en...
deux
pièces en enfilade.
Alors ici, l'ambiance est fort différente parce qu'on tombe carrément dans un style beaucoup plus moderniste et avant-gardiste. Ici, Magritte a utilisé des meubles qu'il a fait juste après son mariage, étant à ce moment-là cubique. Futuriste, au fait, hein, il a commencé un peu par ça, frôlant l'abstrait.
C'est la chambre, faut le dire.
Oui, c'est la chambre. Et où il s'est fait faire des meubles en rouge et en noir. Officiellement, c'était les rouges pour la chambre, les noirs pour la salle à manger.
André Garrett, il y a des objets du quotidien que vous avez injectés dans cette pièce-là. Il y a la brosse à cheveux dorée, l'horloge, beaucoup d'horloges.
Oui, beaucoup
dans
d'horloges.
Dans toutes les pièces,
oui,
il y a une
horloge. Oui, quasi, oui, en effet. Maintenant, on ne les entend plus, mais il y a même un coucou là derrière. Mais c'est vrai que ça a dû faire un bruit un peu agréable, si on aime bien. Et puis les paravents qu'il a eu un temps, mais ça date aussi de sa première période, clairement cubiste, hein, qu'on a refait.
On voit sur le lit le chien,
oui.
Le chien blanc, parce qu'il y a eu des chiens blancs, il y a eu des chiens noirs.
Oui. C'était presque comme un gosse, là. En gros, Magritte vraiment aimait quelqu'un. Il y a plus que l'amitié, il avait quand même ses copains, il était quand même fidèle et tout ça. Mais aimer quelqu'un à fond, moi je crois qu'il n'y a eu que deux personnes, c'est sa femme et son chien, en fait.
Il y aurait beaucoup d'anecdotes à raconter à propos de son attitude envers les musées, notamment celle qui est arrivée au musée des Offices.
Louis Kuttner, 1969.
Nous étions avec Irène, avec Georgette et avec lui. Et alors on s'est présenté à l'entrée et là on nous a refoulé en disant « Ah, les chiens ne sont pas admis ». Alors Magritte a dit, ben on va s'arranger, moi je vais garder le petit loulou et vous autres allez hein, visiter le musée et quand vous sortirez, j'irai et vous garderez le petit loulou. Alors nous sommes allés, on est resté, je sais pas, pour pas le faire attendre trop longtemps, deux heures et demie. Puis on est sorti, il a dit, ah c'est mon tour maintenant, garder le chien. Il est entré, nous sommes allés l'attendre dans une pâtisserie, café, on s'attendait à le voir revenir... dans deux heures, au bout d'un quart d'heure, on a vu arriver Magritte en courant parce qu'il se mettait à pleuvoir. Alors on lui a dit, comment, tu es déjà là? Ben oui, 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 et tu as vu ce qui t'intéressait? Ah oui, j'ai vu le Botticelli, mais il est plus beau en carte postale qu'au musée. Et le reste, oh ben, il y a quelques belles choses, mais il y a surtout beaucoup de déchets.
Au début, quand il était jeune, évidemment, il travaillait beaucoup plus. Même à la lumière électrique, ça ne nous gênait pas du tout. Il n'était pas l'homme à chercher à avoir un atelier avec une verrière. Et il peignait n'importe où il se trouvait. Il a peint longtemps dans notre salle à manger parce qu'il aimait de travailler là où nous vivions, enfin. Finalement, alors, il avait une pièce où il travaillait. Mais il n'avait pas d'heure fixe. Quelquefois, il travaillait le matin, une heure ou deux. Parfois, il ne travaillait que l'après-midi. C'était selon son goût. Si on sortait, il travaillait le matin. Il n'avait pas d'heure fixe. Moi, je laissais faire mon mari ce qu'il voulait. Je ne lui donnais pas de conseils. Je ne lui disais pas, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Je l'ai toujours laissé faire ce que... C'était lui le peintre, c'était pas moi.
Ce sont des gens qui travaillent. Magritte est le seul qui ne travaille pas au sens qui se consacre à sa peinture, ce qui est un travail en soi. Marianne est un homme qui plus tard va faire des petits boulots pour exister, mais jamais se lier à une entreprise de quelque ordre que ce soit de travail. Mais si l'on prend les autres, Paul Nouget est biochimiste, c'est un laborantin. Si l'on prend Marcel Lecomte, il est surveillant dans un athénée. Goumans aura des fonctions à un office de tourisme après avoir été fonctionnaire. Et Louis Kuttner est avocat et devient officier ministériel. Donc c'est-à-dire aussi que ce sont des gens qui, tout en étant dans la société, par leur labeur, essaient aussi de la dynamité.
Et Magritte, il fait travailler sa femme.
Et Magritte fait travailler sa femme, fait travailler Georgette, qui travaille comme magasinière et autres, mais qui a été, bon, c'était quelqu'un qu'on a parfois beaucoup critiqué, on a parfois dit énormément de choses sur elle, elle a parfois signé très hâtivement des certificats, elle n'a pas toujours compris nécessairement l'homme qu'il était. Mais c'est quelqu'un à qui on peut rendre cet hommage d'avoir permis l'élaboration d'une œuvre, car si Magritte n'avait pas eu Georgette Magritte pour créer, comment aurait-il pu faire ? Sa peinture s'est très mal vendue. Il faut jamais oublier qu'il a fallu les années 50, les premiers contrats avec Iolas, etc. aux États-Unis pour qu'il vende régulièrement, qu'il ait des contrats.
Les 20 dernières années.
Au fond, les 20 dernières années de sa vie, et de plus en plus avec le temps, à partir de 1960. Et ça, c'est une obsession chez Magritte qui revient très souvent dans les lettres que l'on peut lire avec des galeristes et autres. C'est qu'au fond, c'est pas un homme qui demande à l'argent de le faire réussir. Les surréalistes n'aimaient pas la réussite, ils n'avaient rien changé. Vous savez qu'il n'y avait pas un système d'alarme chez Skutner, par exemple, pour toutes ses œuvres. Il n'y avait pas ce confort, c'était des gens qui vivaient dans une dans une vie assez simple, au fond. Un homme comme Collinet, que je n'ai pas cité, était aussi un proche de Magritte, était un homme très simple. Ce que demandait Magritte à ses galeries, c'est de lui assurer suffisamment d'argent pour pouvoir continuer son expérience picturale. Mais pas être riche, ce n'est pas la même chose.
Mais on est... Vivre de sa peinture.
En tout cas, ne pas en mourir.
Michel Draguet, directeur des musées royaux et du musée Magritte, place Royale.
C'est un jeune homme qui, au sortir de la guerre 14, n'est pas d'une moralité exemplaire. Il a une vie un peu agitée. C'est une famille très trouble. Sa mère s'est suicidée lorsqu'il était jeune adolescent. Et donc, la peinture, pour lui, c'est d'abord et avant tout gagner de l'argent. Et il fait de la publicité. Mais en même temps, à travers cette publicité, c'est un monde de formes qui le renvoie au temps présent, au style art déco, à une certaine légèreté de vivre qui est propre de l'entre-deux-guerres, du début de l'entre-deux-guerres. Et donc, dans ce contexte, Magritte réalise des tableaux qui sont aussi des tableaux abstraits, jusqu'au moment où il y a une vraie révélation dans sa vie, qui est la découverte de l'œuvre de Quirico. Non pas la peinture de Quirico, mais les représentations de Quirico dans des revues, et la découverte d'une peinture qui ouvre sur quelque chose de plus ample. Et je crois qu'à ce moment-là, ce qui joue dans l'œuvre de Magritte, c'est que c'est un autodidacte. L'école, c'est pas un endroit qu'il a beaucoup fréquenté, ni dans lequel il a véritablement excellé. Il s'est formé sur le tas. Il va d'abord se former au contact d'écrivains, de poètes, de littérateurs, et ensuite, plus tard, au contact de philosophes. Et c'est quelqu'un qui s'est forgé une pensée, et c'est dans ce contexte-là que la rencontre qu'il aura avec Nouget va être une rencontre décisive, qui va l'amener à pratiquer du surréalisme, mais un peu comme Monsieur Jourdain fait de la prose, sans s'en rendre compte. Le mot surréalisme n'est pas quelque chose qui l'intéresse particulièrement. C'est une peinture qui, effectivement, veut être une peinture d'idées.
Il est pour moi de la plus grande importance de faire une nette distinction entre une chose et les idées que nous en avons, car l'importance de mes tableaux en dépend. Il faut distinguer les tableaux ou les idées que l'on s'en fait de la chose que les tableaux et les idées désignent et qui appartient jusqu'à nouvel ordre à l'inconnu. On ne sait rien en effet de ce que mes tableaux désignent.
La vie de Magritte, enfin votre vie, donne à penser que c'était la fête perpétuellement. Il y avait une espèce de joie de vivre et de...
Ben, mon mari n'était pas un homme très très optimiste, vous savez. Mon mari était plutôt pessimiste.
C'était vous l'optimiste ? L'optimisme ?
Peut-être, je ne sais pas.
Ici, on est dans le jardin. Qu'est-ce qu'on sait du tempérament de Magritte ? Qu'est-ce que vos témoignages, André Garitte, vous ont permis de recueillir ?
Il était quand même fort introverti. Donc, il ne s'exprimait pas tellement, peut-être plus à sa femme, mais même là, il ne disait pas tout. Par exemple, il racontait rarement de ce qu'il sentait physiquement. Enfin, c'est que c'est quand même un homme avec beaucoup de paradoxes. Et on voit ça aussi. Un petit exemple encore, c'est qu'il aimait bien que ses copains se réunissaient, de les voir. Mais alors, une fois la soirée, disons vers 10h30, alors il disait à sa femme dans son wallon, « Mon petit chou, je vais me coucher. » Et lui partait, il fermait la porte et laissait seul sa femme avec les surréalistes, vous faites quoi. Et là, il était fort attachant, mais ça devait pas durer des journées entières non plus. Et là, il n'était pas hyper bavard non plus. Donc c'est très spécial pour le cerner, au fait.
Il avait une vie cachée. On parle parfois de phrases que Magritte aurait fréquenté, des bordels...
Oui.
On a des témoignages là-dessus.
Oui, quand même assez. Les copains ont quand même les scutinaires entre eux, ont confirmé ça entre eux, ça servait. Déjà, il faut dire aussi que ça venait déjà un peu du père, hein, le père qui faisait ça, qui est un flambeur et qui a eu des hauts et des bas aussi financièrement, mais qui presque assez vite laissait faire ses trois fils. Enfin, je rappelle une histoire racontée entre autres par Jacqueline, qui disait qu'ils étaient au café sur une terrasse, et à un moment donné, bon, il passe aux toilettes, quoi, et tiens, il revient pas, il est au bordel, sans de demain, montre, et une autre, puis il était parti pour tirer son coup, comme disait l'autre, là. Quand même, à Georgette, pourtant, il a fort aimé tout ça. Il a quand même dû accepter ça un temps.
Il y avait une sorte de pacte entre eux, non? Parce qu'elle-même, on lui prête des histoires.
Oui, oui, une histoire avec Collinet. Mais moi, je peux m'imaginer qu'à un moment donné, c'était un peu une sorte de vague vengeance pour dire, oui, bon, toi, tu cours un peu de ton côté. C'est très complexe et en même temps très intriguant du fait qu'on en a peu parlé. Donc, c'est certainement un sujet à étude et on trouve des petits éléments là-dessus. Mais pas évident de reconstruire toute l'image de Magritte. Comment elle tient vraiment?
Il y avait aussi tout un parti pris surréaliste dans le fait de ne pas avoir d'enfants. Aucun des membres du groupe pratiquement n'a eu d'enfants.
Alors là, c'est un choix. Skutner dit en rigolant, les surréalistes sont de mauvais reproducteurs. Et je crois qu'ils l'ont assumé parce que, bon, d'abord, pour avoir un enfant, il faut avoir une certaine dose d'inconscience ou une confiance en l'univers ou dans le monde tel qu'il vous est proposé. Il y a ça, et je pense aussi que ce sont des gens qui sont entièrement absorbés par ce qu'ils font. C'est vrai que quand on regarde ni Collinet, ni Marienne, ni Nouget, ni Goumans, oui, mais n'ont eu d'enfants, et Magritte non plus. Engendrer est infâme. Voilà encore une autre phrase de Skutner qui résume tout, parce que c'est au fond reproduire le monde tel qu'il est.
Michel Draguet.
Précisément, il n'y a pas de vie chez Magritte quasiment. Il n'y a pas une existence extraordinaire, c'est pas Picasso, il ne s'adresse pas à la guerre d'Espagne, il n'y a rien de tout ça. C'est un type qui peint dans sa cuisine, puis ensuite dans son salon, qui a une vie bourgeoise pathétique. J'ai rencontré des tas de personnes qui ont fréquenté Magritte, qui ne savaient même pas qu'il était peintre à l'époque, parce qu'il promenait son chien, il discutait, il parlait du prix de la farine, de la vie usuelle, et c'est un homme qui avance toujours masqué. Mais en même temps, à l'arrière, je dirais dans... L'arrière du cerveau, il y a une dimension profondément subversive, je pense, jusque dans le couple qu'il forme avec Georgette, qui est un couple de convention bourgeoise absolue, qui forme là de nouveau une image, qui est un écran derrière lequel se passent des choses qui n'ont pas de raison d'être dans l'image telle qu'elle est. C'est la figure de l'homme au chapeau melon, avec son complet, on en a deux là, juste dans le coin, qui est en fait une figure anonyme. La photo de Dwayne Michaels où on voit Magritte faisant sa sieste, mais il a la cravate fermée, il est couché sur son canapé avec sa cravate, moi toujours tout surpris, cet homme cadenassé en réalité. Et derrière cet homme cadenassé, qui contrôle son geste pour faire ses nuages, ce qui l'ennuie prodigieusement, il y a derrière une violence inouïe qu'il canalise en permanence, sauf durant les quelques mois de la période H, où là c'est une explosion. Puis quand l'explosion est terminée, il revient business as usual, cette capacité qu'il a eue à dompter la bête, d'une certaine façon. Et c'est clairement un homme qui a dû avoir une vie intérieure tellement éloignée du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en libérant des choses radicales à certains moments, qui vont jusque à la blague de potache, les plaisanteries un peu grivoises, scato, oui. Il y a des tas de descriptions. Il est à un dîner, on sert des tranches de foie gras, et lui prend ses couverts et il déchiquette toutes ces tranches de foie gras, les jette en l'air. Alors, ça fait partie des légendes urbaines. Mais en même temps, on peut imaginer que quelqu'un qui est à ce point corseté dans un rôle a des moments d'exutoire, et c'est des moments qui sont tout à fait typiques. Et sa petite bande de copains, qui étaient des créateurs de quand même deuxième ou de troisième rang par rapport à lui, à l'exception de Nouget, qui est probablement un des grands poètes du XXe siècle, mais qui a tout fait pour se saborder tout seul, mais les autres qui étaient plus en retrait ont joué à plein le jeu potache de Magritte, parce que, évidemment, ça collait à une certaine image qu'on voulait donner du côté subversif du surréalisme.
Mon mari a peint des chapeaux melons, hein, vous savez, mais... J'ai jamais vu mon mari porter un chapeau melon. Il a porté un chapeau mou comme tout le monde. Et puis, il n'a plus porté de chapeau du tout pendant des années et des années. Et lui, et ça, c'est parce que il venait des photographes d'Amérique ou de... Alors on disait, ah monsieur Magritte, voulez-vous mettre le chapeau melon qu'on vous photographie? Alors il y a plusieurs portraits de mon mari où il a le chapeau melon sur la tête. Eh bien, José-Pierre, il dit qu'il a porté le chapeau melon toute sa vie. Mais ce n'est plus pas vrai.
Si vous voulez que nous allions nous mettre devant l'Empire des Lumières, qui est le tableau évidemment le plus populaire des musées, du musée Magritte, et qui a la particularité d'avoir deux versions de l'œuvre. Tout est ouvert, entrez. Je pense d'ailleurs que ce tableau est une des icônes les plus connues. C'est un tableau qui s'accompagne aussi d'une expérience qui est une expérience réelle. On a tous connu ces moments où le jour bascule et on a déjà des parties ombrées au niveau du sol alors que le ciel est encore un ciel de plein jour. Et c'est ce que Magritte a représenté. On a en fait un ciel bleu avec ces magnifiques nuages blancs qui sont dans son œuvre depuis 1937 sous le signe de la malédiction, puisque ce premier tableau qui représente les nuages, il l'a baptisé la malédiction. Et la partie inférieure du tableau est en fait un paysage de banlieue. Il y a une étendue d'eau qui est d'ailleurs très très sensible dans sa représentation de touches quasiment néo-impressionniste. Un simple réverbère. Et ici, on a une anecdote assez amusante, c'est quand on a créé le musée Magritte, eh bien, ce tableau servait de bâche sur la place du musée. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que le réverbère qu'il peint sur le tableau exactement ceux que nous avons sur la place royale. Alors il y a 17 versions différentes, dont la première est exactement l'inverse, et Magritte n'a pas aimé, c'était raté. C'est le ciel était de nuit et le sol était de jour, et là le contraste était violent, trop violent, parce qu'ici on a déjà fait des tests, les visiteurs ne se rendent pas compte que c'est le jour et la nuit. Ils absorbent l'image comme une sorte d'évidence, alors qu'elle témoigne simplement d'une forme d'impossible, ou si ce n'est d'impossible, d'un moment très ténu dans la journée.
Est-ce que c'est parce que le tableau est trop connu qu'ils absorbent aussi vite, ou est-ce que c'est parce que ce qui est représenté n'est pas forcément évident au premier coup d'œil?
Je pense que la réponse à votre question, elle se situe dans la vie de Magritte, qui est un dessinateur publicitaire et qui donc maîtrise parfaitement l'efficacité de l'image. Donc il sait ce qu'il doit faire pour qu'une image fonctionne, et une image qui fonctionne est une image dont on ne s'en rend pas compte du fonctionnement. C'est l'aisance d'une image poétique qui surprend, qui nous bouleverse, qui parle aux visiteurs. Donc à ce niveau-là, elle est efficace et en même temps, elle distille une partie de son message. C'est un artiste, ça n'en a pas l'air, mais c'est un artiste subversif, puisqu'à travers la représentation, il vous donne à voir ce qui est invisible. Et ça, c'est les aléas. C'est Monsieur Leton qui vient prendre l'hygrométrie, parce qu'on vérifie en permanence l'hygrométrie, même quand le musée est fermé, pour être sûr que la conservation est optimale. Et là, il est occupé à tester ses machines pour voir comment fonctionne l'hygrométrie.
Celle-ci, cette pâte, celle que j'ai d'habitude, c'est le nouveau appareil qu'on va installer pour le contrôle 24 heures sur 24, 365 jours.
Quel taux d'hydrométrie faut qu'il y ait dans la pièce pour que les tableaux soient bien conservés?
Généralement, on compte entre 50 et 55%. Et avec une tolérance de plus ou moins 5%.
Donc ça va.
Sur lequel, avec 19 8 de température. Parfait.
Ok, on va attendre le résultat de Rudy. On attend encore un petit peu.
Ah mais sa pensée, elle est là. Sa pensée, il l'a peinte. Si on lui demandait, Monsieur Magritte, que voulez-vous dire en faisant, par exemple, un tableau qui est chez moi, le domaine d'Arnhem, qui est une montagne, c'est comme un aigle avec les ailes déployées. Il répondait, mais ce que j'ai voulu dire, vous le voyez, je n'ai rien voulu dire d'autre que ce que vous voyez.
Mais dites-moi, Magritte, qu'espérez-vous en fait?
Je voudrais que mes tableaux ne soient plus nécessaires pour que l'on songe à ce qu'ils montrent. D'ailleurs, la personne humaine pour qui le monde ne suffit pas à signifier le mystère ne trouvera pas dans mes tableaux ce qu'ils tentent de révéler.
Les couleurs sont toujours très simples.
Oui.
Il en parlait souvent du problème de la couleur, de la palette?
Pas du tout. Du moins, pas à moi. Quand on avait des réunions avec des amis, non, c'était pour voir les nouvelles toiles, pour s'amuser à chercher un titre. L'un proposait ça, l'autre proposait autre chose. Parfois, mon mari dit « Oui, c'est une idée géniale !» Et puis le lendemain, il supprimait, il en mettait un qu'il avait trouvé lui-même. Mais il y a des amis qui ont parfois donné un titre, comme l'Empire des Lumières, par exemple, qui a été donné par Paul Nozet. Il a pris des titres d'Edgar Poe, par exemple. Parce que le titre n'est pas une explication, n'est pas donné pour expliquer le tableau. C'est pour y ajouter un titre poétique. Il y a plusieurs tableaux qui portent comme le domaine d'Arbin, c'est un conte d'Edgar Poe aussi.
Puis il y en a encore là, deux pièces.
Derrière le chevalet, il y a une photo.
Oui, ça c'est une rare œuvre de quelqu'un que Magritte exposait, donc pas les siens ni les autres.
André Garitte.
Ne les collectionnait pas, mais c'est une photo de Man Ray, qu'il a eu de Man Ray dans les années 30. Il a toujours accroché cette photo. Il faut aussi dire que cette pièce est un peu centrale. Enfin, moi, je les aime toutes. Hein. En plus, c'est déjà pas grand. Mais qu'ici, il y avait donc salle à manger, donc clairement pour manger quelques fois par jour. En même temps, il peignait ici majoritairement. Il a travaillé là. Donc, si on dit que c'est la moitié de toute sa production, donc quasi tous ses tableaux, même les grands formats, se sont faits dans cette pièce qui n'est pas grande. Et alors, c'était la salle de réunion des surréalistes samedi soir.
Alors, donc, les copains, ils venaient là.
C'est ça, oui. Et parfois, enfin, en gros, ils étaient 6, 7, mais parfois jusqu'à 10, 12 aussi.
Michel Draghi, il y a aussi cette histoire de titre toujours un peu en décalage avec cette image.
Alors, allez-y.
La question du texte qui va avec l'image ou du texte qui plutôt ne va pas avec l'image.
Alors, là, il faut faire attention parce que ce n'est pas valable dans tous les coups. Mais on va en profiter parce qu'on a une œuvre qui vous le montre ici. C'est un tableau qui s'appelle Les Grandes Espérances. Hein. Il date de 1940. Alors évidemment, Les Grandes Espérances, 1940, on fait directement un lien. En fait, si on décrit le tableau, on a une sorte de nuit américaine, qui est quelque chose que Magritte pratique beaucoup à l'époque. C'est une sorte de ciel bleu avec un très léger dégradé, des étoiles dans le ciel. Et alors, on a des arbres petits, trapus, avec une frondaison quasiment comme une grosse boule, comme une grosse sphère sur un tout petit tronc. Et cet arbre-là monte jusqu'à à peu près la moitié du tableau. Et au premier plan, il y a un immense tronc qui monte et il y a un bouquet de feuilles qui touche le haut du cadre. Et ce tableau, j'avais jamais fait. Alors, c'était pour moi un tableau type, comme on le décrit, mais il y en a pas eu beaucoup comme ça. Magritte réunissant ses amis, montrant une image qui n'a pas de titre, et les gens autour de lui proposent des titres. On entend même aussi de temps en temps des histoires du style chacun met un titre dans un chapeau, on le tire au hasard et on choisit le titre.
C'est un mythe, ça, Michel Draghi?
C'est pas un mythe, probablement que ça faisait partie des jeux auxquels ils se sont livrés, mais quand on lit la correspondance de Magritte, c'est un travail beaucoup plus systématique de la part de Magritte, qui envoie des descriptions de tableaux qu'il est occupé à faire à toute une série de correspondants privilégiés, Nouget, Lecomte et d'autres, et il attend de leur part qu'ils offrent des titres. Mais il les prend pas tout fait, parce que parfois il le refuse en disant c'est trop ceci, pas assez cela. Il les oriente, alors on a des cas comme la corde sensible, qui a connu, la clé de verre, pardon, qui est à Houston, et qui a connu 13 titres différents, jusqu'à ce que Magritte trouve celui qu'il voulait. Et donc en 1928, il va, 28-29, il va passer au tableau mot, où il va substituer, par exemple, à un dessin d'arbre, le mot arbre, et on va arriver là au point ultime qui est la célèbre pipe. Et ceci n'est pas une pipe, la trahison des images, qui n'est pas une œuvre. C'est d'ailleurs très amusant. C'est pas du tout une œuvre à laquelle Magritte attache un quelconque intérêt. C'est une œuvre d'ailleurs qui, à l'époque, ne jouit pas d'une réputation particulière. Ça, c'est l'histoire de l'art qui va créer le tableau, et tout particulièrement aux États-Unis où se trouve le tableau, le lien qui va faire passer du pop au minimalisme, au conceptuel. Et donc, ce parcours de Magritte est un parcours qui l'amène finalement à une forme de peinture qui est quasiment un aboutissement, puisqu'il remplace l'écriture par la peinture et la peinture par l'écriture.
Michel Draghi, on a parfois reproché à Magritte, ça a d'ailleurs peut-être joué sur le fait que son succès était relativement tardif dans sa carrière, de faire une peinture en apparence simple.
Elle est en apparence simple parce qu'elle est évidente. Contrairement à Dali, qui va vous faire des montres molles, va vous donner des constructions allégoriques qui sont très symboliques, Knopf, vous pouvez pas commencer à parler même d'un symbolisme de la lumière, il n'y a pas de symbolisme du réverbère, il n'y a pas un symbolisme de l'arbre. C'est un homme qui essaye, et d'ailleurs le musée en rend compte, son évolution est une évolution vers davantage de maîtrise technique. On le sent dans la manière dont il peint les nuages, hein, je veux dire, c'est quasiment de la photographie, mais ça n'est pas de la photographie. Il essaye de rendre une image qui est une image de perfection visuelle.
Sauf au moment de son anti-peinture à ses débuts, il désirait tout de même peindre proprement, mais il refusait l'esthétisme pictural. C'est ça qu'il ne voulait pas, toi.
Louis Kuttner, 1969.
Il ne voulait pas l'impressionnisme, l'expressionnisme, le tachisme et tous ces trucs-là. Il voulait faire une image aussi claire et nette que possible. Comme il semble que quand Paulin écrivait un texte, il voulait que ce soit aussi clair et net que possible, ou Valérie. Il ne voulait pas des trucages à la Cocteau. Ou... Son époque impressionniste, mais je ne sais pas si... Il a utilisé cette technique-là aussi à des fins bien délimitées. On était dans le marasme, on était dans la tristesse, c'était la guerre. Alors il a pris à l'impressionnisme le côté solaire, le côté joyeux, le côté coloré, pour faire obstacle à cette tristesse, à ce marasme. Mais je ne crois pas que ce soit le point de vue technique qui l'intéressait. Il utilisait la technique dans un but bien déterminé. C'était des recherches plutôt morales, intellectuelles, mais pas techniques, cérébrales toujours.
Alors là, ici, on est dans le musée Magritte, on est devant des toiles de la période Vache. Qu'est-ce qu'on peut dire de la peinture chez Magritte, mais de la peinture au sens de la matière ?
C'est surtout, je crois, cette période Vache, une espèce d'immense pied de nez qui a été fait au public parisien, notamment puisque l'exposition a été présentée en 1948
Xavier Canon.
À Paris, à la Galerie du Faubourg, et où Magritte a réalisé en secret une quarantaine d'huiles, quarantaine de gouaches aussi à peu près, pour une exposition où le galeriste n'a découvert les œuvres qu'au tout dernier moment. Et Magritte, à 50 ans à l'époque, commence plus ou moins à vivre de sa peinture. Et avoir une exposition en 48 dans une galerie parisienne l'aurait sans doute amené à fabriquer des tableaux, à réaliser des tableaux qui étaient plus ceux de sa manière auxquels le public était habitué. Or, il décide, et ça c'est le côté chenapan de Magritte, il décide dans le grand secret avec quelques-uns de ses amis, Skutner, Marianne, Jacques Vergifoss, ils décident de réaliser ces tableaux qui sont véritablement barbouillés dans une espèce de déferlement de couleurs comme cela. Et vous imaginez en 1948 la tête de ceux qui vont découvrir des tableaux comme ceux-ci, qui sont par exemple des non-sujets. On en a une série ici devant les yeux qui reprennent certains thèmes magriciens, mais d'autres qui sont complètement à côté. Ces petits lapins qui sont en train de jouer du tambour, une gouache qui s'appelle Pom 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 Pom. Il y en a un autre qui montre un personnage en train de marcher avec un grand sac sur le dos qu'il appelle le Stropia. Un autre qui s'appelle Jean-Marie. Dans cette période Vache, on voit des tableaux, on voit un personnage uriner sur un arbre au sortir de sa voiture devant une école en ruine. Tout ça dans des décors très colorés avec, par exemple, l'apparence de nappes de papier comme le galet, cette femme qui est en train de se lécher le corps comme le ferait un chat. C'est en fond une série de non-sujets et le pied de nez au public est tel que ça va être, je dirais, augmenté par un texte de Skutner qui est une préface magnifique de son vieux complice Louis Skutner qui a, il faut le dire, sauvé la période Vache. Car aucun des tableaux n'a été vendu, aucune des œuvres n'a été emportée par les visiteurs, personne n'y a rien compris. Il n'y a que Paul Éluard qui, dans le livre d'or de la galerie, a écrit « Rira bien qui rira le dernier ». Mais le public de Magritte et ses amis était totalement décontenancé devant ses œuvres. Et Magritte, en plus, j'ai eu la chance de connaître trois des personnes qui avaient assisté à la préparation de cette période Vache, m'ont dit que Magritte avait peint dans un état de jubilation, de plaisir, parce que la peinture l'ennuyait généralement. L'idée était intéressante, mais sa matérialisation, c'était un peu un labeur pour lui, un peu inutile. Et là, vraiment, il s'est amusé, riant à l'avance du bon coup qu'il allait faire, mais surtout aussi débordant dans sa couleur, se permettant des tâches. Il y a une espèce de violence colorée qu'on retrouve, par exemple, dans la bande dessinée. Et ce n'est pas pour rien que Skutner a fait la préface, parce que Skutner et Magritte étaient des passionnés des pieds nickelés, étaient passionnés des dessins de Léon Forton. Et on retrouve la violence de Léon Forton dans ses œuvres. Moi, j'ai toujours devant ses œuvres une certaine émotion, parce que lorsque j'avais 17 ans, 18 ans, que j'ai commencé à rencontrer le couple Irène Amoir et Louis Kuttner, ses œuvres n'étaient jamais reproduites ou très peu dans les catalogues. On considérait que c'était une espèce de petite facétie à part dans l'œuvre de Magritte. Et en fait, on s'est rendu compte que non seulement il y avait la latitude surréaliste en plein, être là où on ne l'attend pas, mais aussi que dans les années 80, il y a eu une génération d'artistes, de peintres, qui sont revenus à la peinture, qui se sont rendus compte qu'il y avait dans le travail de René Magritte ici quelque chose dont ils pouvaient, sur lequel ils pouvaient se fonder et se poser pour peindre. On avait vraiment ici un retour à la peinture. Donc c'est une période qui, dans le grand public et dans les artistes tout d'abord, était légitimée par la suite. Et les revoir ici au mur, mais me souvenir de l'endroit où ils étaient chez Skutner, parce que Magritte n'avait même pas eu les moyens de ramener ses œuvres de Paris. Donc c'est Skutner qui les a ramenées, achetées et qui a sauvé toute cette période vache.
René Magritte, qui était connu aussi pour ses canulars. Il paraît que Magritte, il soulevait les jupes aussi dans les ascenseurs.
Oui.
Vous avez entendu parler de ça, Noël Godin ?
Oui, à sa bonne époque. Tout à fait. Il se livrait à quelques activités transgressives qui sont contestées par la veuve Magritte. Mais Marcel Marianne est catégorique dans son fameux radeau de la mémoire. Une autobiographie très haute en couleur. Il raconte que le mouvement surréaliste a été principalement financé de 1942 à 1946 par un nombre important de faux, de dessins et de tableaux fricassés par Magritte. Il s'agissait de faux tableaux, faux dessins de Picasso, de Braque, d'Ernst et de Chirico. Et tout me porte à croire que c'était vrai, malgré les dénégations de la veuve Magritte qui a fait saisir le livre. Il ne s'agissait pas pour Marianne de dénoncer cette pratique réjouissante, mais de l'applaudir pour ses magnifiques faux. On ignore souvent que Magritte, après avoir été longtemps acoquinée avec la bande des surréalistes belges, est devenu sujet de risée vers les années 55. Ses anciens compagnons l'ont formé en question, l'accusant de s'engluer dans les honneurs, de courir les mondanités, de devenir un artiste officiel, renonçant à la guillorette subversion, et de plus en plus de l'autre bord, et dès lors lui ont réservé quelques surprises bien rigolotes. Il y en a une que j'adore, que j'ai notée ici dans mon anthologie de la subversion carabinée. En 1962, alors que René Magritte s'apprête à exposer au casino de Knokke-le-Zoute, un tract circule qui lui est attribué, un tract qui annonce qu'il a décidé de vendre désormais ses œuvres à des prix dérisoires. Magritte, complètement effondré, reçoit aussitôt des félicitations d'un peu partout. Je trouve ça succulent.
Avec Magritte, vous avez pratiqué deux fois le faux. D'abord, il y a eu les faux tableaux, et puis oui, il y a eu la fausse monnaie.
Oui, c'est ça. Oui.
Est-ce que cette activité s'inscrivait dans la perspective surréaliste ou pas?
Ah non, pas du tout. Non, c'était seulement pour avoir de l'argent, exactement comme tous les faux monnayeurs du monde.
Ça, Marcel Marianne, ça passe, en 1983.
Une manière de gagner sa vie comme une autre.
Il y a eu aussi une extraordinaire histoire de tracts.
Oui, ça c'était à l'occasion d'une rétrospective, et alors j'avais fait un tract qui paraissait émaner de Magritte, dans lequel il proposait toute sa peinture à des prix presque dérisoires, et j'avais donc reproduit au-dessus du tract un billet de banque où le portrait, l'effigie de Léopold Ier était remplacé par la tête de Magritte. Et alors ça a fait beaucoup de bruit, et ça a été pris généralement à la lettre. Et alors, quand la brigade des faux monnayeurs s'est mise en action, parce qu'on ne pouvait pas reproduire à l'époque un billet de banque, notamment ça avait paru dans un journal, Et on est allé d'abord en droite ligne chez Magritte. Alors on a cherché longtemps avant de savoir vraiment d'où ça venait. Et puis finalement, on est venu jusque chez moi.
Pourquoi avez-vous fait ce tract ?
Eh bien, ça correspondait au fait que c'était une action, évidemment, contre Magritte, parce que c'est le moment où Magritte avait commencé à réussir comme peintre, où il vendait bien ses tableaux, etc., à des prix très considérables. Et alors, il avait une attitude qui était peu surréaliste par rapport à des attitudes antérieures, c'est que il peignait sur commande, on lui demandait une magie noire, on lui demandait une mémoire, et alors on lui demandait des portraits. Alors il avait toujours détesté faire des portraits. Et alors c'était un simple petit rappel à l'ordre, un rappel au principe. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça ait une telle efficacité.
Et quelle a été la réaction de Magritte ?
Ben, elle était fort embarrassée, d'autant plus qu'il n'avait pas reçu le tract et qu'au vernissage, c'est le ministre de la Justice qui lui a remis, montré la félicité, comme il ne comprenait pas de quoi on parlait, il lui a donné le tract.
Et le ministre pensait que le tract était de Magritte ?
Oui, tout le monde le croyait, parce que tout le monde croit généralement tout. Hein. Il est facile de faire croire ce qu'on veut.
Beaucoup parler du Magritte publicitaire et puis maintenant que Magritte serait devenu une sorte de marque qu'on décline comme ça en Belgique, il y a la bière et Magritte.
Ah oui, c'est sûr, c'est devenu aujourd'hui un argument publicitaire. Hein. Il faut aussi faire la séparation entre ce qui peut être des reproductions, au fond c'est tout à fait légitime, et Magritte le disait lui-même, l'encourageait, que une carte postale, une affiche, une illustration de ces tableaux était aussi puissant, puisque c'est l'idée, encore une fois, qui prédomine. Magritte serait d'ailleurs étonné de voir les précautions qui entourent le transport et l'exposition de chacune de ses œuvres. Moi, je me souviens de Louis Kutner en train de décrocher des œuvres avec Irène et les cogner dans l'escalier en les montant, en me demandant d'en raccrocher une parce que c'était en train de bouger, sans gants et sans rien du tout. Aujourd'hui, on a l'impression de... Bon, voilà, ça c'est la muséologie. On a l'impression de voir un lancement de fusée à Cap Canaveral avec des spécialistes autour. C'est vrai que cette scène n'a pas échappé à la représentation. On va prendre par là. Mais dès lors que Magritte s'est retrouvé dans un billet de banque, qui était le dernier billet de franc belge imprimé avant l'euro, alors c'était très paradoxal, lui qui s'est retrouvé dans un billet de banque dans le tract de la Grande Baisse, et qui a surtout... fait des faux billets dans une époque avec Marcel Marianne et son frère Paul, qui était un type extraordinaire. Voilà, on pouvait dire que Magritte était rentré dans le domaine public. Quoi.
Magritte n'aimait pas les peintres.
Louis Kutner.
Il aimait tellement sa peinture, tout en ne l'aimant pas toujours, qu'il détestait tous ceux qui n'étaient pas Léonard de Vinci ou Balestieri, un peintre de genre italien du commencement du XXe siècle. Qui a peint des scènes de genre plaisantes, mais c'est assez peu d'importance, je crois.
Donc, je m'appelle Louis-Charles Ascovici, je suis né à Bruxelles et je préside les fondations et musées Magritte.
Alors, comment est-ce qu'elle a été créée ? Parce que vous avez une histoire singulière avec l'œuvre de Magritte.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous retrouviez à gérer justement ces droits ?
Cette histoire est née... d'une relation très spéciale entre la veuve de l'artiste et moi-même dans les années 70-80. Georgette a perdu son mari René Magritte en 1967. Elle est restée seule, entourée d'amis. Le couple Magritte n'a jamais eu d'enfant, donc j'ai eu une sorte de relation filiale, petit filiale, de relations de grand-mère à petit-fils à cette époque. Moi, j'étais qu'un jeune étudiant, passionné par les arts et par Magritte en particulier. J'ai fait la connaissance de René Magritte à travers une monographie écrite par Walberg dans les années 70. Je suis tombé fou amoureux de son œuvre et passionné par sa vie, et d'une simple relation, c'est devenu une amitié, et d'une amitié, c'est devenu une relation familiale. Et elle m'a gagné à sa cause. Et j'ai appris à mieux savoir, mieux connaître et à gérer une œuvre aussi magnifique que celle que René Magritte nous a laissée.
Vous étiez un tout jeune homme à ce moment-là.
J'avais 25 ans lorsque j'ai hérité de ses droits. Elle m'a laissé les droits intellectuels de son mari à travers un testament. Et j'ai donc reçu comme mission d'organiser une fondation, de créer un musée et de défendre l'œuvre de son mari partout dans le monde.
Magritte, il a un peu disparu derrière son costume. On pense au chapeau, on pense à la pipe, on pense à la pomme. Il y a cette image forte, presque plus forte que celle de son visage. On a gardé le souvenir de ce costume.
Oui, mais le costume de Magritte, en fait, ne veut rien dire. C'était juste une façade, parce que Magritte avait l'apparence d'un bourgeois, mais à l'intérieur de ce bourgeois bouillonnait un anarchiste, un révolutionnaire, celui qui refusait de peindre comme un impressionniste ou comme un symboliste. Il peignait à sa manière, il peignait l'antithèse de la réalité. C'est comme nous avons voulu concevoir le musée Magritte exactement de la manière dont était Magritte. C'est-à-dire que le musée Magritte, il a une façade fin 18e, début 19e, et à l'intérieur, rien à voir avec la façade. Eh bien, pour Magritte, le personnage, c'est exactement pareil. Vous avez la façade d'une personnalité extrêmement sévère, rigoureuse, sérieuse, et à l'intérieur de cela, vous avez le créateur, vous avez celui qui va à contresens de la réalité.
Ça, c'est aussi un beau tableau.
Oui. Archives personnelles d'André Garitz avec Georgette Magritte.
C'est important, vous savez, ce tableau-là, dans la peinture de mon mari.
Ça, c'est... Les vacances de Hegel, ils appartiennent toujours à Brachot aussi.
Je ne sais pas.
Ça c'est très bien. Aussi. Et ce n'est pas tellement connu, hein. Au fond, disons.
Non, parce que c'est un tableau que mon mari a offert à des amis un soir que nous allions souper chez eux. Il dit qu'est-ce qu'on offre très bien. Il a offert ça.
Oui. Et pourtant, c'est son meilleur portrait aussi, hein, vous trouvez?
Oui, c'est un portrait qui est bien aussi. Hein. Enfin, c'est bien son visage. C'est la clé de verre. Ça, c'est la clé de verre avec les montagnes. Enfin, je vous le montrerai. On ne voit que ceci de son visage. Oui. Ça, c'est bien son visage.
C'est bien
ça. Ceci, ça lui ressemble, mais c'est pas important.
Non, non.
Hein. Ça, c'est bien un beau tableau aussi, cette série-là. C'est ça, là.
Oui, ça, j'ai marqué aussi parce que c'est vraiment comme trouvaille, c'est splendide.
Xavier Cannon, vous appartenez à une commission d'expertise des Magritte.
Oui.
Et on peut lire, quand on va sur le site de ce comité d'experts, que 80% des œuvres présentées sont des faux.
Ces 80%, c'est peut-être beaucoup. C'est-à-dire que toutes les œuvres ne sont pas nécessairement présentées en comité. Il en est qui sont rejetées tout de suite. C'est même pas la peine d'en parler. Vous savez, il y a des gens encore naïfs aujourd'hui, de moins en moins, mais on a vu des croûtes de grenier signées Magritte au-dessus. C'est même pas la peine d'en discuter. Donc moi, je considère le travail intéressant à partir d'œuvres qui sont... soit qui peuvent poser un problème réel, qui sont soit des versions, soit des copies, soit des faux. Ou peut-être parfois des œuvres qu'on n'a plus vues pendant des années, dont le travail qu'ont mené David Sylvester et Sarah Whitfield a permis de connaître l'existence, mais où on ne les avait pas nécessairement toujours trouvées. Les œuvres ont beaucoup bougé. Donc il y a aussi un travail qui est celui de réidentifier des œuvres dont on connaît l'existence, mais justement parce qu'ils ont disparu, de ne pas se faire avoir. Mais il y a des faux. Et il y a des faux.
Il y a beaucoup de faux.
Il y a beaucoup de faux, et il y a beaucoup de faux qui viennent de certaines mains. J'ai toujours dit à mes collègues qu'il faudrait un jour que l'on fasse une exposition sur la provenance des faux. Ce serait absolument étonnant. Il y a vraiment des écoles de faux.
Xavier Cannon, certains disent que Magritte était assez philosophe, que c'est un conceptuel. D'autres disent que c'était aussi un auteur, puisqu'il est l'auteur de bon nombre de lettres, de correspondances, même s'il n'a pas à proprement parler écrit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Magritte ? du panel. Il y a le peintre, le philosophe.
C'est un poète qui réfléchit sur le monde et qui réfléchit au départ d'images, même si on ne peut pas laisser de côté la part, non pas littéraire, vous avez raison, mais la correspondance épistolaire de son travail. Mais je pense que le rassemblement de tout cela, c'est effectivement une poésie. Qu'est-ce qui est important, au fond, et qui fait qu'on aime les tableaux de René Magritte, ou qu'on devrait les aimer comme tels? C'est que ce sont des tableaux qui ne sont pas des portes fermées. Ce n'est jamais définitif, un tableau de Magritte. Un tableau de Magritte vous entraîne ailleurs. Vous pouvez constater le tableau de Magritte exactement comme une carte postale, sans aucun intérêt. Mais si vous rentrez dans cette préoccupation, si vous devenez un complice du tableau, ce tableau va vous porter plus loin, il ouvre les limites de votre univers. Et c'est ça en fait que fait Magritte. Il ne nous donne pas des solutions dans le tableau, ou par le tableau. Il nous donne des possibilités d'avancer dans l'énigme. Et l'énigme, c'est quoi? C'est notre condition humaine, c'est notre... pourquoi on est là, pourquoi la Terre tient droite, comment... toutes ces questions, au fond, que les philosophes ont posées, Magritte les matérialise par quelque chose qui est direct et qui est visible.
Finalement, monsieur, mon mari n'est plus l'homme qu'il était. Ça devient un autre homme. Il peignait ce qui existe. C'était pas fantastique. Il n'était pas du tout pour la peinture fantastique. Il se servait de ce qu'il y a dans le monde. C'est ça qui l'inspirait. Il aimait beaucoup le ciel, il aimait beaucoup la nuit. C'est pourquoi il a fait l'Empire des Lumières, qui est un ciel de jour avec des nuages très bleus, avec l'obscurité en dessous. Mais maintenant, tout le monde dit « Oh, je suis allé !» Dans le midi, par exemple, nous avons vu un ciel, Magritte. Alors que ils auraient dû voir le ciel avant. Mais c'est vrai, vous savez, énormément de personnes maintenant remarquent le ciel à cause de ce tableau. N'est-ce pas, Charlie?
René and Georgette Magritte with their dog after the war returned to their hotel suite. And they unlock the door, easily losing their evening clothes. They dance by the light of the moon to the penguins. The moon glows, the Orioles, the firesides, the deep forbidden music they'd been long. René and Georgette Magritte with their dog after the war. René and Georgette Magritte with their dog after the war.
Magritte, l'Empire des Images, avec Charlie Herzgovici, Jacques Saucher, Xavier Cannon, Françoise Keuten, André Garitz, Michel Draguet, Noël Godin, coordination Perrine Carvran, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son Nicolas Mathias, mixage Manuel Couturier, recherche discographique Romain Couturier. C'était Une vie, une œuvre Magritte, Maïlys Bessery, Charlotte Roux.
René and Georgette Magritte with their dog après la guerre. Side by side they fell asleep, decades gliding by like Indians, time is cheap. When they wake up, they will find all their personal belongings have